Bien, bonsoir. Merci donc à la librairie de nous accueillir et de nous permettre ce moment d'échange et de dialogue avec Jean-Louis Sousse. En ce qui me concerne, tu m'en excuseras si tu veux bien. J'ai pas pu faire une lecture aussi fine que je l'aurais voulu de l'équivoque interprétatif. C'est un peu lié au fait que Jean Houry a eu le mauvais goût de mourir la semaine dernière et ça m'a valu un aller-retour à la Borde ce week-end, donc c'était moins studieux que je ne l'aurais pensé, mais tout aussi pris dans l'humanité. Et justement, à l'aune de ça, c'est comme ça, en tout cas moi, que me parle ton travail, Jean-Louis, depuis longtemps, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie et ça ne dure pas très 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 longtemps, c'est pas mal de l'utiliser à se sentir suffisamment libre pour penser. Et moi, je trouve que le travail que tu fais depuis, moi, je dirais pour moi, depuis les petits mathèmes de Lacan, avec, vous vous rappelez, la partition du point sonneur des lilas au début, en contrepoint, tu invites qui te lit, à mon avis, à penser par lui-même des choses par rapport à ces écrits qu'on fréquente tous depuis des dizaines d'années quand même. Et tu invites à ce que l'on fasse autre chose que de jargonner ou que de les répéter. Ça, je crois, moi, que c'est extrêmement important. La langue de Lacan, écris-tu, ne saurait se fixer en une sédimentation définitive sous peine de la rendre morte, d'en faire nécrose. Alors moi, je crois que c'est vraiment ça dans quoi on a à se situer pour faire en sorte que l'analyse se discute, reste vivante, se transmette, peut-être même au-delà du temps de vie imparti à chacun. En tout cas, que ça se réinvente au fur et à mesure. Alors, dans cette question de l'interprétation, qui est une question difficile, la question de la langue, la question des équivoques signifiantes, des plusieurs niveaux logiques qui sont convoqués dans l'affaire et de l'interprétation. Je repensais, on peut se parler simplement, je crois, à un dialogue que l'on avait il y a 7 ou 8 ans, c'était avec Jeanne Lafon, dont vous savez qu'elle est toute proportion gardée. Elle a fait comme Obélix, qui est tombé dans les potions magiques quand elle était petite. Elle est tombée dans la topologie, elle, quand elle était petite. Donc, elle avait fait la transcription des premiers séminaires des séminaires de Pierre Souris, d'une part. Puis, il y avait eu la topologie ordinaire de Jacques Lacan, etc. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et Jeanne a un séminaire sur psychanalyse et travail social auquel elle invite des amis de temps en temps, et on avait travaillé ensemble ce jour-là sur la question de l'interprétation, justement. Et elle avait fait comme elle le fait, parce que c'est elle, des tas de schémas très compliqués, etc., et des tas de schémas de pensée topologique, et elle, comme j'étais l'invité du jour, elle me pose une question redoutable, c'est « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Ah, généralement, on n'est pas très bien dans ces moments-là. Et donc, je lui dis ce qui me vient et elle me répond, bah, écoute, je n'étais pas sûr d'avoir vraiment compris. Ça avait décalé des choses pour moi, ce qu'elle venait de dire, mais je ne sais pas si comprendre, c'est tellement la question. C'est d'ailleurs ce que tu poses, ne cesses de poser par rapport à interpréter, c'est sûrement pas comprendre. Et Jeanne, à ce moment-là, a ce mot qui est de me dire, elle me dit, c'est exactement ça, elle me dit, au fond, l'interprétation, c'est prendre le risque de traverser notre propre point de connerie. Bon. Dans ton ouvrage précédent, tu avais fait une éloge de la connerie, d'ailleurs, très sérieuse. Hein. Jean Houry ne cessait de marteler que la connerie, c'était un droit et qu'il ne fallait pas oublier de s'en servir. Mais dans le sens, au fond, d'une noble connerie, d'une docte connerie, quoi. Voilà, hein. C'est d'accepter de ne pas savoir. Alors moi, j'ai été très intéressé par ça que tu reprends un peu à tous les moments, et dans le texte freudien, et dans les incises que tu fais, qui font vraiment relire de très près ces séminaires qu'on a tous beaucoup travaillés, puis tout d'un coup, à travers des petites références, on les revisite comme ça, en prenant une respiration, justement de ne pas mathématiser l'interprétation, de ne pas la mathématiser, de ne pas la systématiser, de ne pas en faire quelque chose de desséché qui roulerait tout seul, mais au contraire quelque chose de hasardeux, quelque chose de flottant, de mouvant, de plastique, qui se déplace sans arrêt entre plusieurs niveaux logiques et avec le... en misant, en faisant des paris à certains moments, sur le fait que mine de rien, à énoncer les choses d'une certaine façon, on va peut-être pouvoir viser au-delà de ce qui apparaîtrait pour que peut-être ça soit entendable à ce moment-là ou un peu après. Bon, voilà, c'est un peu ça, moi, que j'avais envie de dire comme ça. Tu peux réagir de suite.
Oui. D'abord, je suis sensible à ce que tu dis parfois sur l'urgence à dire, l'urgence à penser. Une espèce d'intensité de désir en fonction des périodes de la vie qui se passent. Et j'ai ouvert ce livre sur le tableau de Stahl, Le Grand Concert. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui était dans l'urgence, c'est absolument, je crois, lui, qui était dans une urgence de peindre absolument étonnante. Voilà, et il nous dit quelque chose, en effet, c'était quelqu'un qui refusait, par exemple, tous les titres à ses tableaux, le titre étant trop référentiel, précisément. Et alors, il disait de façon marrante et étonnante à ses courtiers et ses marchands, qui quand même avaient le souci de vendre, il leur disait « Ah ah, les titres !» Non, il y a effectivement la nécessité de faire passer du manuel et du plastique. Voilà. Et là, je crois que la peinture nous dit quelque chose sur cette question de la touche interprétative, hein, c'est-à-dire un effet effectivement de résonance qui est sûrement présent dans le Grand Concert avec cette espèce de trouvaille extraordinaire de ces touches de peinture par rapport à l'orchestre qui viennent toucher les touches du piano avec la question de se demander s'il y aura ou pas achèvement ou inachèvement de l'interprétation. Voilà. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait important sur l'urgence que ressentait de Stahl, puisqu'il a, à un certain moment, il a cessé sa vie avec une interprétation, alors évidemment extrêmement ouverte sur la question de ce suicide. Voilà. Donc là, il y a, et moi je suis sensible en effet à cette, ce que tu appelais une certaine indépendance, liberté de dire, de faire jouer des résonances aussi du texte lacanien. Voilà. En ce qui concerne c'est pas moi qui ai fait un éloge de la connerie, ça serait un peu prétentieux, mais j'avais repris dans l'ouvrage précédent sur les néologismes de Lacan cette extraordinaire formule qui est la déconnaissance. Voilà. Et il y a tout un passage sur l'art de la déconnaissance. Et la déconnaissance, c'est pas tellement la connerie, mais c'est le rapport entre la connerie et la connaissance, la déconnaissance. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça permet dans la relation à l'autre de supposer qu'il y a toujours, on n'est pas dans la compréhension, on n'est pas dans l'interprétation de l'autre, il y a toujours une connerie, quelque chose qui échappe, et ça rend le rapport déconnant. Hein, voilà. Et la formule de Lacan est extraordinaire quand il dit l'inconscience a déconné, mais au sens de l'imparfait, c'est très joli, c'est-à-dire ça déconne, comme si à la fois c'est déconnaître au niveau de la connaissance, on ne la comprend pas, on ne la saisit pas, et ça déconne aussi, quoi, puisqu'en fait, une des définitions des lapsus, des mots d'esprit, c'est que ça nous échappe. Quoi. À partir de là, ça rend le rapport moins dans la compréhension appropriatrice. Voilà. Et c'est lui qui hybride, voilà, qui hybride justement un mot trivial de connerie avec la connaissance. Quoi, voilà. Il casse la philosophie de la connaissance, qui est une philosophie du savoir référentiel, en mettant de la connerie et en disant il y a un art. Voilà. Et donc la résonance interprétative est une façon de jouer, de risquer quelque chose qui, d'une certaine façon, est tellement de surcroît, surchargé, etc., que ça, d'une certaine façon, ça vous échappe. Voilà, c'est pas une interprétation en termes de savoir, voilà, de savoir conscient qui rendrait compte de quelque chose, quoi. Ça permet effectivement à quelqu'un éventuellement d'avoir des conséquences ou de faire résonner comme une touche ce qui va être repris, quoi. Et Freud, ce que je raconte, Freud dit très bien ça. Il dit, je n'étais pas capable d'entendre la musique, dans la mesure où moi j'ai besoin de comprendre et de savoir quel est le sens de l'œuvre, qu'est-ce qu'a fait l'auteur, qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne peux pas arriver, très bien, je le dis dans la préface, je ne peux pas me mettre dans cette situation d'entendre de la musique. Voilà. Donc il y a évidemment dans la musique, il y a davantage une part de non-sens, hein, puisque le référentiel est encore moindre que dans la peinture. Hein, voilà. Voilà, donc c'était une réplique un petit peu dans la propos.
J'aime bien que tu le reprennes comme ça, parce que d'entrée de jeu, quand on rentre dans ce bouquin, on est déporté, justement. Ce que tu viens de faire, c'est-à-dire que on s'attend avec interprétation à être plus, au fond, dans la technique, si j'ose dire, et on se retrouve immédiatement dans la musique, c'est-à-dire interprétation, partition, résonance. On est aussi dans la musique, mais là-dedans aussi dans la musique de la langue. Hein, c'est-à-dire que les signifiants d'une histoire, ils passent aussi à travers une scansion dans le fait de les énoncer. Ils passent par des silences qu'on retrouve en musique. Ils passent par des balbutiements. Ils passent par des choses, par l'énoncé, par le souffle de la voix. Hein, tout ça, ça compte énormément. Et c'est parfois le fait de repérer un silence, une certaine tonalité, qui fait que quelque chose va trouver à se dire du côté de celui ou celle qui s'agite silencieusement dans le fauteuil derrière. Tout autant que du contenu de ce qui vient d'être dit. Hein, c'est...
Alors, ça, je crois que c'est... je crois qu'il me semble que ça a été la tension importante de l'enseignement de Lacan. Il vaut mieux, finalement, prendre une œuvre comme étant l'objet d'hétérogénéité, c'est-à-dire de tension, d'un auteur qui n'est jamais là où vous croyez ou qui n'est pas toujours de la même façon homogène comme Freud, voilà. Et donc ça nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus libre et profane de ce qu'il a essayé d'énoncer. Par exemple, en matière de conneries, Lacan à un certain moment dit ce que j'avais énoncé concernant la paire signifiante S1 S2 est une connerie parce que c'était trop binaire et que c'était pas suffisamment poétique, c'était trop substitutif de l'un à l'autre, et il dit textuellement ça. Les gens qui ne veulent pas avoir un Lacan qui dit des conneries feront hagiographie et, par exemple, supprimeront dans les séminaires ce passage. Voilà. C'est ça qui est important pour nous. Voilà. C'est cette position aussi de lecture interprétative de Lacan. Et donc, la dernière période de l'enseignement de Lacan, ça a été la façon de faire entendre la langue. Voilà. La langue au sens pulsionnel. Et alors qu'au début, le signifiant est pris dans, et ça c'était le côté très intellectualiste, formel de Lacan, est pris dans des systèmes structuralistes, dans des systèmes d'opposition binaire, dans des systèmes formels, de linguistique différentielle. Donc ce qui fait que l'accent est mis sur le symbolique du signifiant. Et je crois que le grand passage, ce qui ne veut pas dire que le rapport au symbolique n'est pas aussi en jeu dans une cure, mais le grand passage c'est d'avoir fait passer ce signifiant à la jouissance, ce qui est une chose considérable par rapport à l'enseignement lacanien, puisqu'il va dire, il va reprendre la formule cartésienne en disant, c'est plus où je pense ou je ne suis pas, c'est je pense donc ça jouit. Voilà, c'est ça qui est tout à fait important. Et le la langue, si vous voulez, vous l'entendez comme la lalation. Voilà. Si vous parlez une langue, par exemple, régionale, etc., moi qui suis d'origine landaise, ce que je ne savais pas dire comme la langue m'a fait revenir sur le patois landais que j'entendais. Par exemple, quand vous dites en patois landais le gatteskiro, eh ben, c'est le chat écureuil, eh bien, vous l'entendez, vous le voyez, le gatteskiro. Ou quand vous dites de quelqu'un à karumeg toustem, il est toujours en train de ruminer. Voilà. Et à Rumégué, vous voyez les mâchoires. Et c'est ça la question, à mon avis, de la résonance. Quoi. C'est une autre position que le simple formalisme. Voilà. Et c'est pour ça que mon travail a essayé de serrer cette notion d'équivoque en disant qu'elle n'est pas aussi équivoque qu'on le croit, qu'il y en a plusieurs, donc j'en distingue plusieurs dans le livre. Voilà. Et c'est aussi une façon de répondre à des critiques concernant les lacaniens qui ne font que des jeux de mots. Hein. On a dit, les lacaniens, ils interprètent dans le préconscient, et donc ils ne touchent rien. Quoi. Alors que si on le regarde comme ça, on s'aperçoit que ça touche un mot. Comme dit De Staël, il y a beaucoup plus d'esprit dans 3 cm carrés de matière qu'ailleurs. Ah, ça, c'est une phrase extraordinaire. Il y a beaucoup plus d'esprit dans 3 cm carrés de peinture qu'ailleurs. C'est une force extraordinaire de l'effet de matière, de la résonance de la réalité à travers le fait simplement de lui donner quelques touches. Et je crois que, parce qu'il faut quand même penser, je te laisse la parole après, les analystes, ils n'ont pas beaucoup de choses à leur disposition. Hein. Si, ça, dans les conférences et tout ça, ils glosent, ils métaglosent, ils parlent du nom du père, ils parlent de l'objet, etc. Mais en situation, ben, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez des mots, et vous avez éventuellement des coupures, ou oui, aussi, la façon dont vous supportez un transfert, etc. Mais il n'y a pas grand-chose. Et à la limite, je crois que nous sommes, en effet, comme des peintres et des musiciens avec nos... Voilà, je crois que si on devait dire exactement qu'est-ce qui se passe dans une analyse, nous sommes en fait dans cette situation, indépendamment évidemment de tout le savoir qu'on garde par devers soi, qui joue. Mais dans l'acte même de l'analyse, ça se passe donc autour de ça.
Oui, alors, ce qui me venait comme ça, par rapport à ce que tu viens de dire et ce que j'avais en tête, c'est qu'au fond, la pratique de l'analyse, c'était quand même une pratique anti-surenchère. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le génie du symptôme, on n'a pas grand-chose comme moyen, si ce n'est d'avoir des moyens extrêmement minimalisés, au fond, si on veut être un peu efficace. C'est-à-dire qu'on ne joue pas du tout à malin et demi, hein, parce que là, c'est sûr que ça va être perdant des deux côtés. Hein. Donc, parfois, l'intervention ou l'interprétation, ça va vraiment être presque, comme dans Carole, hein, une non-interprétation. Quoi. Hein, quelque chose qui se laisse pas intellectualiser comme ça ou qui se laisse pas prendre dans la jouissance qui est autour du symptôme. Pour s'y faire en rubaner dedans, quoi. Sinon on n'en sort pas. Donc c'est vraiment des problèmes de logique extrêmement complexes et on n'a pas grand-chose pour opérer là-dedans. Hein. Je crois qu'on est vraiment nos propres instruments, comme disent les gens qui pratiquent le chant, par exemple, et on n'a pas vraiment beaucoup de choses à notre disposition dans le répertoire pour pas donner de l'eau au moulin qu'on essaie d'amener à tourner autrement. Hein, on est et des fois d'avoir l'air idiot, c'est pas mal. Hein, bon. Oui.
Alors voilà, je crois que dans l'histoire actuelle, je crois que l'analyse est à mon avis actuellement la seule pratique qui n'a pas de référentiel donné. Et donc, elle est profane dans ce qu'elle reçoit. C'est-à-dire, à la différence de toutes les techniques actuelles qui en rajoutent sur les coachs, sur les experts, sur les grilles, sur les échelles, etc. Nous, la seule question, c'est de dire, voilà, venez parler indépendamment des titres référentiels qu'on vous a donnés. Voilà. Et c'est à partir de la matière, de la langue et de ce qui se passera que peut-être il adviendra quelque chose. C'est la seule pratique actuelle. On a cette singularité-là, hein, c'est-à-dire... Nous sommes des profanes qui ne savons rien a priori du référentiel d'un symptôme et du titre qu'on va lui donner. On va ce titre, comme De Staël le dit, ou comme par exemple aussi Magritte le dit sur le titre de ses peintures, ce titre, il est beaucoup plus titré, c'est-à-dire au sens d'une résonance. Il est beaucoup plus mélange, mixage, comme le titre d'un vin. C'est pas un titre référentiel. Voilà. Vous pouvez très bien repérer une structure obsessionnelle, vous aurez à vous coltiner la question du doute. Et le doute, voilà, et ça passera dans la langue. Il y a pas de, je crois que c'est cette position-là qui est particulière. Alors, par rapport à ce que j'aime bien ce que tu as dit sur la surenchère. Donc, la première position de Lacan, bien sûr, c'était révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire, on n'avait pas à surenchérir, à faire monter les enchères d'une interprétation de moi à moi. Hein. Vous savez que Ferenczi, il s'est totalement foutu dedans par rapport à ça, puisque Ferenczi, il recevait les gens et les gens s'interprétaient réciproquement. Ah ben je, il disait son compte transfert. Bon, ça va pas très bien aujourd'hui parce que vous avez une robe ceci. Oh mais vous, vous m'avez dit ça, etc. Et puis de toute façon, vous pourriez me payer parce que vous m'enseignez quelque chose, mais moi je vais vous payer. Enfin, vous voyez très bien les emmoïsations merdiques dans lesquelles vous vous foutez, quoi. Voilà. Alors, il y a une très jolie phrase sur, que je me permets de citer de Lacan sur ça, sur les risques. Alors, il dit ça. Je t'intersubjective, tu m'intersubjective par la barbichette. Le premier qui rira aura un soufflet, eh bien, mérité. Il me dit cela pour mon réconfort ou me plaire, pense l'un. Veut-il me rouler ? Pense l'autre. La relation berger-bergère, elle-même, si elle s'engage ainsi, s'engage mal. Elle doit différer à tout prix de la négociation diplomatique ou du guet-apens. Voilà. Et donc, oui, en effet, oui, ça je crois que ça, la relation analytique n'est pas de l'ordre de la surenchère. Voilà. Et ce que tu dis évidemment sur le symptôme, c'est que l'équivalence valeur, par exemple, d'une certaine façon, dévalue le symptôme. C'est-à-dire, ça passe à de la non-valeur par l'équivoque. Hein. C'est-à-dire, comme par exemple, le. Ce type-là qui adorait le veau d'or, et on lui dit, ben, quelqu'un avec un trait d'esprit lui dit, il a vraiment passé l'âge pour un veau, quoi. C'est-à-dire, il était tout vieux, etc. Donc ça dégonfle la métaphore. C'est-à-dire, ça passe un peu au non-sens, quoi. Voilà. C'est-à-dire, il y a une partie que j'appelle moi équivalence valeur qui est importante parce que la valeur aussi en linguistique a été donnée par Saussure. Par exemple, le mouton, vous ne dites pas en anglais le mouton de la même façon s'il est dans le pré ou si vous le mangez. Voilà. Donc le signifiant est lié à la valeur d'utilisation. Voilà. Et donc dans la valeur d'échange, il y a une dévaluation. Il y a quelque chose qui se dévalue et qui peut se dévaluer par une équivoque. Quoi. C'est-à-dire, voilà. Mais évidemment, il faut serrer de près ça. C'est-à-dire, il y a une aberration et une obscénité, par exemple, à faire des jeux de mots si ce n'est pas sous transfert ou si ce n'est pas en relation. Comme par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va dire « j'ai des crises de panique », vous allez lui dire « panique ». Et puis voilà, ça c'est évidemment une caricature d'une pratique analytique. En revanche, par exemple, l'équivoque que produit Lacan quand il dit « ce condiment », voilà, c'était... Ça lui permet, si vous voulez, de dire que, avec la question de la saveur du condiment, que ça s'entend par le goût aussi. Hein. L'équivoque s'entend par le goût, par la pulsion qui est évidemment derrière effectivement ce jeu qui va décoller un peu. C'est un sens trop fort. Quoi. Voilà, il y a un effet de décollement qui est inverse de l'effet interprétatif paranoïaque, par exemple. Ça décolle, ça enlève un peu quelque chose. Quoi, voilà. Et c'est évidemment à ce moment-là, quand on dit ce condiment, c'est la résonance. Et ce que disait Serge, c'est que la voix, c'est-à-dire on a l'impression aussi que l'interprétation passe par la voix autant que par le symbolique. Elle passe par la voix pulsionnelle. C'est-à-dire vous pouvez dire à quelqu'un des choses... Et c'est quelquefois repris, votre tonalité. Quelqu'un peut vous dire, je ne sais pas, « Ah, mais vous me jugez ?» ou « Ah, mais vous vous moquez ?» Voilà, il y a quelque chose qui va passer du ton. Il y a un ton. Il y a un ton de l'équivoque, une tonalité aussi qui est importante. Et là, quand il dit « ce condiment », il le fait passer par les orifices. Les orifices, ça joue plutôt, on pourrait dire, dans la pulsion invocante que uniquement... dans le premier symbolique, extrêmement formalisé. Voilà.
Oui, oui. J'aimerais bien, peut-être, si tu pouvais dire quelque chose sur ces équivalences que tu fais fonctionner, équivalence parasite, équivalence valeur, équivalence reconnaissance, comment tu as conçu cette déclinaison, au fond ? Parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, mais on sent à partir d'un moment, après que tu as abordé la question des moments du symbolique chez Lacan, que tu déclines des choses autour de cette notion d'équivalence, comme ça, qui permet de reprendre un certain nombre de questions tout à fait fondamentales sur, sur la langue, au fond, et sur le rapport à la matière de la langue, pour reprendre ce titre du bouquin de Goldschmidt. Et j'aurais aimé peut-être que tu en dises un petit mot, si tu peux. Comment tu as conçu ce découpage-là, à partir de quoi il t'est venu comme étant vraiment quelque chose d'important?
Je vais essayer de reprendre ça autour d'une forme que vous connaissez bien, qui est l'arbre. Voilà. Alors voilà, quand vous l'arbre, il peut rentrer dans du symbolique majestueux. C'est au début, un peu dans la péroraison lacanienne sur l'arbre, il représente beaucoup de choses. Il représente une certaine puissance, etc. Bon, Deleuze et Guattari ont beaucoup critiqué l'interprétation en disant, voilà, l'interprétation, elle parle toujours de phallus, elle parle toujours de castration, elle parle toujours d'Oedipe. Voilà. Et on s'aperçoit, par exemple, que l'arbre, chez Lacan, il va changer de tonalité. Il va aller, par exemple, je cite ça dans mon livre, très étonnamment, chercher l'arbre présent dans la Genèse, vous savez, la scène primitive, j'allais dire, de la Bible. Voilà. Et il dit, voilà, l'arbre là, il était présent. Il pose une question totalement incroyable. Il dit, est-ce que l'arbre a joui de ce qui se passait, voilà. Il va questionner ça. Alors, en faisant, si vous voulez, justement, une question intéressante, de prendre la notion parasite, hein, des arbres comme une certaine forme un peu mortifiée de jouissance. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui, dans ce que j'ai appelé l'équivalence parasite, qui serait à réanimer, hein, à réanimer par la langue. Voilà. Quelqu'un peut être totalement pris dans des parasites sans pouvoir s'en extraire et en sortir. Voilà. Et donc là, l'arbre n'est plus quelque chose d'extérieur avec un symbole magnifiant, il devient quelque chose d'une puissance et d'un rythme. Voilà. Et alors il a repris, et ça je vois ça dans le livre, j'ai repris ça sous forme effectivement de figure. Il s'est référé donc à la poésie chinoise, en disant que dans la poésie chinoise, à partir du moment où vous avez des idéographes, vous avez un rythme qui, par exemple, dans un poème, va vous faire sentir, à travers l'écriture même chinoise idéographique et les sons, la poussée de l'arbre, la façon dont le rythme de l'arbre, l'intensité de l'arbre qui va effectivement, eh bien, grandir. Vous avez un poème superbe où la graphie même de l'arbre est confondue avec l'idéographie de l'homme. Voilà. C'est-à-dire l'homme se fait quasiment puissance d'arbre qui continue. Alors, on voit bien là l'équivalent, si vous voulez, qui est à même la langue, à même la poussée. Hein, ce n'est pas une position d'arbre symbolique. Et je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Pennone. Italien Pennone et de l'Arte Povera, hein, qui a fait beaucoup d'arbres. Et où précisément, dans ce cèdre qui avait été abattu par la tempête, à l'intérieur même de l'arbre, il va refaire pousser des branchages et des parasites qui vont redonner de la force à l'arbre. Voilà, c'est une installation superbe. Quoi, voilà. Vous voyez bien, alors je ne sais pas si ça peut s'entendre, mais comment l'approche de l'arbre est passée d'une position, à mon avis, purement symbolique, avec l'anagramme d'arbre et de barre, toutes les formes, etc., à la résonance vraiment parasite ou pulsionnelle de l'arbre. Voilà. C'est pour ça que lorsque vous êtes sensible, parce que c'est aussi un risque, une équivoque, lorsque vous êtes sensible à une équivoque, très étonnamment, vous ne savez pas très bien ce que vous allez toucher. Mais en tout cas, il y aura un effet de résonance. Alors, ça porte ou ça ne porte pas. Puis, il ne faut pas penser que ça dépend. Il y a, comme dit Serge, il y a des silences, il y a des périodes. Mais à un moment, je crois qu'il y a quelque chose qui ne peut pas ne pas résonner sur une équivoque pour quelqu'un. Hein, Voilà. Donc je ne sais pas si à travers, par exemple, cette... On pourrait le repérer ça aussi dans la façon dont le cheval est pris dans la philosophie. Par exemple, pour Spinoza, le cheval est beaucoup moins un concept qu'un devenir en force, c'est-à-dire il a des puissances. Un cheval a des puissances. Et il va dire, par exemple, un cheval de trait, c'est beaucoup plus près qu'un bœuf de trait. C'est pareil. Tandis que alors que les mots sont différents, cheval et bœuf. Tandis que des animaux, effectivement, qui sont dans un devenir et dans une puissance, eh bien, ils ont une intensité qui est au-delà de la référence du concept cheval ou autre. Voilà. Et ça pose une question, par exemple, sur l'interprétation du cheval. Je ne sais pas si vous voyez ça dans le cas dans le petit Hans.
Bien sûr.
À quoi on renvoie ce cheval, quoi. Est-ce que c'est le support uniquement signifiant du nom du père, comme Lacan a pu à un certain moment le formuler, même si sur la fin du séminaire il revient là-dessus, ou est-ce que c'est un support d'intensité importante, c'est-à-dire tomber, galoper, se juger sûr, etc. Enfin, il supporte, voilà. Et donc, c'est toute la question qui est posée autour de qu'est-ce que c'est qu'un signifiant, voilà.
Et puis ce maillage que dans les musiques de la langue elle-même, tu connais visiblement aussi bien que moi le travail de François Dachet là-dessus, qui a quand même depuis 25 ans quoi, retravaillé toutes les questions autour du petit Hans avec les écrits croisés de Max Graff et de Herbert Graff, la réédition de la thèse d'Herbert Graff, le petit Hans, parce que contrairement à ce que les psychanalystes s'appliquent à penser, le petit Hans, il n'a pas toujours eu 5 ans, il a grandi quand même. Hein. Et il n'a pas grandi de travers. Alors c'est marrant parce qu'on se fait des idées figées. Je ne pensais pas parler de ça, mais on se fait des représentations figées. On a invité à Espace à plusieurs fois François Dachet. Et il y a des gens à Espace qui ont des séminaires sur la psychanalyse d'enfants, qui sont des cliniciens remarquables, très très chevronnés, mais qui, chaque fois qu'on a parlé de ça... Il y a plein de gens qui étaient tout à fait ahuris d'apprendre que le petit Hans avait eu des enfants. Hein, parce qu'il fallait qu'il n'en eût pas pour rester fidèle au dogme de la fin des formules tordues de l'Oedipe. C'était pas possible qu'il ait des enfants et que ça fonctionne pour lui. Il a quand même inventé un métier extraordinaire, c'est celui de metteur en scène d'opéra. Enfin, il a eu une carrière internationale, il fait tout à fait ahurissante et magnifique. Je veux dire, il en a fait quelque chose. Et puis, chaque fois d'ailleurs qu'il parle des choses, il revient pas du tout dans quelque chose de négationniste sur l'enrichissement que ça aurait été pour lui à un moment donné d'avoir un symptôme qui aura été écouté. Hein, comment ça a créé de l'ouvert dans sa vie et comment c'est toujours une source d'ouverture très très longtemps après. C'est quand même pas mal. Hein. Mais on voit par exemple, je pensais à évoquer ça, que François Dachet invite aussi à réfléchir sur la musique de la langue, c'est-à-dire une allitération en feu. Hein. Pferd, le cheval en allemand, mais aussi ce dont le petit Hans avait les oreilles rabattues, c'est professeur Freud. Oui. Professeur Freud. Hein, hein, on ne sait pas. Voilà, hein, lequel avait quand même offert un cheval à bascule, voilà, au petit Hans pour ses 4 ans. Bon, voilà, ça, c'est très maillé dans plein de strates différentes. Et on ne voit pas comment on pourrait avoir une univocité du comprendre pour interpréter le symptôme. Enfin, c'est...
Voilà ce que tu dis sur la langue allemande. Là, c'est passionnant. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire quand vous entendez Pferd, vous pouvez effectivement entendre le cheval, mais quand vous savez aussi, mais ça, c'était méconnu. C'est-à-dire, on ne savait pas la place que Freud avait jouée dans le cas de ce petit Hans. C'est-à-dire que Freud, ça, c'est très important. Même Lacan ne le savait pas. C'est après que le petit Hans s'est manifesté pour dire qu'il était Herbert Graff. Voilà. Et donc Pferd, si vous dites à quelqu'un Pferd, vous le laissez dans le fait de se demander si ça renvoie au professeur Freud ou au cheval. Et en même temps, ça peut renvoyer aux deux. Tandis que l'interprétation que vous faites en disant le cheval, bon, derrière il y a totem et tabou, le cheval si vous voulez, qui est de la horde primitive, enfin des clans, etc. Donc ça a été un peu construit comme ça. Voilà. Mais si vous dites à quelqu'un Pferd, c'est très joli du reste. C'est-à-dire, vous le laissez dans l'équivoque de cela. Et puis voilà. Mais vous ne préjugez pas si c'est cheval ou le professeur. Et c'est la superposition de ça qui peut peut-être faire écart. Voilà. Parce qu'on, voilà, au petit Hans, on lui prévoyait avec ce fameux cheval, on disait il va finir dans la cavalerie.
Il va être mal barré. Oui.
Voilà, il va être mal barré, ou être chevalier, mais ça ne va pas marcher. Et à mon avis, ce n'est pas innocent qu'il ait fini dans les décors des opéras, parce que je crois qu'il a été effet de coulisses énormes. Parce qu'il s'avère, si vous voulez, qu'il était dans des liaisons dangereuses. Ce que j'ai dit dans un livre que j'avais fait sur l'enfant supposé. Sa mère était en analyse avec Freud. Voilà, ça, si vous voulez, la psychanalyse bien pensante ne peut pas toucher à la géographie. Mais il est, et du temps de Freud avait une prise extrême sur les gens autour. Donc sa mère était en analyse avec lui. Et son père est allé voir à deux reprises Freud pour lui demander s'il était fondé qu'il puisse épouser cette femme. Donc on peut se demander qui a été le père. Et il a dit, est-ce que vous pensez que si j'ai un enfant, ça risque finalement d'aplanir les difficultés du couple. Voilà. Et il est allé, et Freud était en position d'autre qui a... Voilà. Donc ça, c'est une autre lecture qu'on connaît, parce que les cas, ils évoluent. Et donc, voilà, il repose... On voyait bien que ça repose aussi la question de l'interprétation, qui, évidemment, comme tu le dis, est assez... Voilà, c'est comme de Stahl, c'est-à-dire elle se joue sur Pferd. Voilà. Elle se joue sur Pferd. Voilà. Elle se joue là-dessus. Si vous privilégiez le signifiant cheval, vous tombez un peu dans du symbolisme. Si vous privilégiez la littéralité, la musique de Pferd, vous le laissez comme ça. Et ben, ce genre de question, il est assez... c'est ce que nous supportons. Hein. C'est dans ce qu'on entend dans les discours. Hein. C'est des questions sur lesquelles on est... Et, voilà, et dire que l'interprétation est résonante, c'est justement ne pas trop mettre de supposer un supposé référentiel. Voilà, c'est après, avec ce décollement, que le sujet ou l'analysant peut revenir là-dessus. Et puis après, il peut vous dire, ah ben oui, ça m'a fait penser à ceci, cela. Voilà.
Alors, je pensais, quand tu évoquais les choses comme ça, comment, par exemple, de l'entrée du livre sur Nicolas de Staël à Pennon, dans ce que tu proposes, mais c'était le cas avant, et je crois que c'est extrêmement important, c'est de voir qu'en tant que lecteur ou que prenant appui sur l'œuvre de Lacan, on est quand même invité comme sujet à prendre comme ressource en nous tout ce qui fait notre épaisseur culturelle. Parce que sinon, on reste devant quelque chose qui est sans vie. C'est-à-dire, il faut y donner du souffle à cette affaire-là. On ne lit pas le séminaire de Lacan comme un truc qu'on va apprendre par cœur. Hein. Ça ne marche pas, quoi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et je trouve que c'est vraiment important de voir qu'on a, en tant qu'analyste, on est invité à être là, à la fois dans une position de doctignorance, certes, mais aussi avec tout ce qui fait notre épaisseur d'humanité et de sensibilité, comme ça, à l'ouvert. Hein, alors moi j'ai lu ça avec la rétrospective à Beaubourg sur Nicolas de Staël, avec les installations de Pennon et à Versailles, etc. Enfin voilà, on lit ça dans ce qui fait notre contemporanéité, ou enfin bref, vous avez compris, c'est-à-dire ce qui nous met dans le coup. Hein, et on est invité à penser dans des jeux de résonance nous-mêmes avec ce qu'on a sous le coude, quoi, pour penser les choses dans l'époque où on est. Voilà, Pennon et Lacan ne connaît pas, évidemment. Hein. Mais enfin, ça, il s'est passé depuis des tas de choses. Hein, depuis 81, le monde a continué de tourner. Et puis, il y a des gens qui continuent de l'interpréter, le monde, justement. Et c'est à nous de faire des liens. Et si on ne fait pas ces liens-là, on n'est pas du tout dans cette dimension de pouvoir penser, rêver, moi, je dirais, et la théorie et la pratique. Hein, parce qu'on est aussi dans ce que tu proposes, c'est jamais une exégèse du texte lacanien au sens sec que ça pourrait avoir. Hein. C'est toujours des invitations à penser et des mises en perspective, avec souvent des trouvailles d'écriture d'ailleurs dans lequel on te sent extrêmement présent, qui sont pas à chosifier, hein, qui invitent à faire d'autres trouvailles soi-même de lecture et d'écriture. Bon. Et je crois que ça, c'est un mouvement extrêmement important. Alors, je voulais aussi évoquer deux choses que je me suis étonné, surpris à pas trouver, mais c'est plutôt bien aussi qu'on trouve pas tout.
Oui.
Hein?
Rassure-toi, Serge,
Voilà.
je ne dis pas tout.
Voilà, mais je pensais pas que tu disais tout non plus. Mais il y a deux choses auxquelles j'ai pensé. L'affaire du parasite parolier. Ça, c'est
Parasite.
du parasite parolier.
Oui,
Vous
je vois.
voyez, ça se
Voilà, c'est
bouscule.
très
Hein.
voilà.
Alors bon, moi, j'en
On peut
avais
s'arrêter là.
J'en avais fait l'argument d'une thèse à un certain moment, donc moi je connais ça. Mais j'avais trouvé ça dans une communication d'un collègue, je sais plus où, à Prague ou ailleurs. C'était au milieu du séminaire sur le Saint-Homme, où la question qui se pose, je le lis comme ça parce que c'est beaucoup plus simple, la question est plutôt de savoir pourquoi un homme normal, dit normal, ne s'aperçoit pas que la parole est un parasite, que la parole est un plaquage, que la parole est une forme de cancer dont l'être humain est affligé. Comment est-ce qu'il y en a qui vont jusqu'à le savoir? Et que ce qu'il propose, au fond, à ce moment-là, comme défi, au fond, c'est de nettoyer le parasite parolier. C'est quand même un sacré parasite.
Ben oui, parce que là, voilà, par exemple, là, ça s'en rabat sur un symbolique transparent, clair, complet, qui dit tout. Voilà.
Voilà.
Et ça le, voilà, à partir du moment où vous considérez qu'aussi le langage est parasitant, il est parasitant, pour certaines formes symptomatiques, il est parasitant. Dans ce qu'on appelle régulièrement un délire, dans des hallucinations, il est parasitant pour des fantasmes obsessionnels, classiquement, voilà. Donc il y a effectivement en effet du, oui. Mais là, moi j'étais toujours sensible. J'ai trouvé que Lacan avait toujours une espèce de d'étrangeté, c'est-à-dire il est toujours un peu décalé. Il considère même la langue comme un peu étrange, quoi. Il a cette façon de parler constamment avec des surprises, des façons de suspendre les choses auxquelles moi je suis sensible, quoi. Pas quelqu'un qui. Voilà, c'est toujours des espèces de suspension, d'évidement, d'étrangeté par rapport à la chose qui parle. Voilà, à la limite, il considérerait, mais je ne sais pas si je force les traits, mais il considérerait que c'est plus normal entre guillemets d'être parlé que parler, quoi. Je sais pas si vous entendez ça. Il y a quelque chose qui dit parfois, voilà, là, bon, évidemment, c'est absolument dans l'analyse en tant que telle. Par exemple, un rêve, ça vous parle, ça vous montre, c'est étrange, c'est extraordinairement étrange, un rêve, ça vous vient comme ça, vous demandez du reste d'où ça vient, et ça vous parle, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors oui, j'entends bien que parasite, on peut effectivement le ramener à cette question autre qu'un symbolique transparent.
Et à la question de la jouissance accrochée à la matière de la langue,
Oui, absolument.
qui n'est pas forcément négative d'ailleurs, parce que si à l'origine il n'y avait pas une espèce de crochetage par la jouissance justement de la langue du tout petit, sans doute que dans le langage il n'y rentrerait pas. Le problème, c'est que ce qui est opérant et souhaitable à un moment donné devient anachronique à un autre moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se fixe à ce
Voilà,
moment-là et
mais
qu'il peut y avoir un travail qui se fait par la cure à certains moments, qui pour d'autres à d'autres moments ou pour les mêmes à d'autres moments se fait par le travail silencieux sur la matière de la langue, c'est-à-dire le travail de l'écriture, pour un peu enlever des traces de ce qui, dans l'après-coup, aura fait adhérence de cette jouissance-là, adhérence non souhaitable. Mais ce qui fera adhérence non souhaitable à un moment donné a pu à un autre moment être un point d'accroche. Ben voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont
je crois
vivantes dans le temps.
il me semble qu'il dit quelque chose comme ça. Il dit que la langue a joué aussi contre parfois la mortification,
Absolument.
le fait qu'elle n'est plus suffisamment animée, qu'un sujet peut-être côté chosification, et la langue va, en touchant ce souffle-là, peut-être réanimer quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bon, vient par exemple, on livre ça comme ça, mais par exemple, l'équivoque, par exemple, autour du mot plainte. Voilà. Donc, vous voyez très bien que. Oui, voilà. Vous voyez bien là que quand c'est d'une plainte, c'est du côté d'une chosification totale où il n'y a pas de place et d'espace pour essayer de dire quelque chose. Alors que si vous faites équivoque sur plainte, eh bien, il y a l'apparition. Au lieu d'être mortifié dans le bois mort d'une plainte, l'apparition d'un appel, d'une pulsion invocante, où vous avez le droit éventuellement de vous plaindre. Peut-être pas trop, mais enfin. Mais ça, quand même, fait partie de l'analyse. Mais bon, certainement, une fin d'analyse, on met un petit peu fin à la plainte. Mais quelqu'un qui part d'une position de plainte où il incarne, il est dans la plainte, mais chosifié, et donc il n'a pas le droit enfin, il n'a pas le droit. Il ne peut pas sortir de cette position. C'est exactement l'arbre. C'est une mortification, voilà. Et on touche je crois que là, on touche quelque chose il se fait arbre, quoi. Il y a quelque chose, il se fait plainte. Voilà, il se fait plainte. Mais quand je dis ça, il faut le prendre comme du bois. Voilà. Et donc, peut-être, il y a quelque chance à, si vous faites résonner plainte, de par le fait que vous permettez l'ouverture à quelqu'un qui était totalement chosifié là-dedans. Ou peut-être qu'il va se passer, il peut se passer un peu quelque chose, quoi. Voilà. Voilà, par exemple, voilà. Alors, comment vous qualifieriez cet équivoque? Vous voyez bien combien c'est feuilleté, combien il y a des choses. Voilà, vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez plutôt l'appeler comme équivoque parasite. Voilà, je l'appellerai moi une équivoque parasite. Voilà, c'est pas la même chose que le veau, l'histoire du veau d'or, où là c'est plutôt une équivalence valeur. Voilà, c'est. Voilà, donc il y a. Bon, ça, c'est moi qui me suis permis d'essayer de repérer et de distinguer des formes d'équivoque, parce que souvent, ça devient une tarte à la crème. On dit l'interprétation analyse, c'est l'équivoque. Bon, mais voilà, quand vous allez regarder un peu de près, vous avez une gamme, voilà, une gamme des tonalités, une palette de rapport à l'équivoque. Voilà, et du reste, par exemple, ça peut être l'expérience d'une cure, et que quelqu'un, puisque les lacaniens tiennent à ce qu'ils appellent la passe, c'est-à-dire que quelqu'un parle de son analyse, bah, voilà, par exemple, est-ce que dans une expérience de passe, on va parler un peu de ce qui a fait effet, voilà. Comment sont passés les effets, voilà. Les effets d'une analyse, autour de quoi? Se passent les effets d'une analyse, voilà.
C'est-à-dire qu'on voit, on ne voit pas, tu l'écris d'ailleurs à un moment donné, quand tu reprenais l'histoire de plainte, on voit que c'est pas avec une langue de bois qu'on va y arriver, quoi. Et
C'est
tu
ça.
à un moment donné, tu écris très joliment la langue du bois. C'est quand
C'est ça.
même, hein, c'est.
C'est ça.
Non, mais
Alors ça,
je dis ça
c'est
parce
peut-être le
que.
retour de mon côté landais, tu vois, il y a plein de couches dans
Oui,
la question de
oui,
l'arbre et du
oui.
bois,
Voilà,
et
mais bon.
voilà, voilà, tu vois, je ne sais pas ça. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a probablement une surdétermination de mon rapport à tout mon rapport à ça.
Bien sûr.
D'autant que j'ai écrit aussi sur la tempête Klaus et ce que ça a fait, etc. Donc voilà, j'ai retrouvé de la langue, voilà, j'avais des. Mon père parlait régulièrement la langue patoise, voilà. Donc
Que je
voilà.
n'avais pas entendu parler depuis la mort de mon grand-père, ceci
Voilà.
dit.
Bah oui, voilà.
On est tous faits de ça, quoi,
Voilà, bah oui,
complètement. Ah
voilà.
oui.
Voilà,
Ah
donc c'est
oui.
ça qui est
Ah
intéressant. Du
oui, bien
reste, au
sûr.
lieu de parler de j'ai touché mon objet ptita dans la cure, je pense qu'il vaut mieux parler de la langue qui
Oui.
vous a un peu. Voilà. Là, tu vois, c'est
Alors,
un effet où tu t'es
absolument.
jamais rendu compte de l'importance du bois et de l'arbre qui est peut-être repassé là, tu vois. Voilà.
Et alors justement, dans cette veine-là, il y a quelque chose que j'ai été un peu étonné de ne pas trouver. C'est
C'est quoi?
l'histoire par rapport à Freud, l'histoire de Marianne Käfer. Tu sais, cette formation de symptômes, justement, chez ce type qui a une trentaine d'années, qui est en analyse avec Freud, qui revient sur des phobies de son enfance, autour des petits coléoptères noirs, qui s'appellent en allemand Marianne Käfer. Voilà. Et où vous l'avez peut-être en tête, cette histoire-là, dans ce qui dévide cet homme-là, et ce qui est pointé par Freud dans son écoute, hein, il y a plusieurs choses. Il va y avoir le fait que la mère qui est morte quand il était tout petit, etc., bah tiens, comme prénom, il fallait bien qu'elle ait un prénom, c'était Marie son prénom. Hein. et qu'il y a quand même du côté de qui écoute un petit truc qui s'allume, un petit clignotant sur Marianne Kaeffer, Marie. Hein. Et puis il y a un autre souvenir que ce type évoque, c'est qu'il y a eu un défilé de gouvernantes après la mort de la mère, et que parmi les gouvernantes, il y avait une jeune gouvernante française qui, quand elle était dépassée par les événements avec les deux gamins, avait tendance à lever les bras au ciel et dire que faire, que faire. Voilà. Et comment on voit que le petit coléoptère noir, il a juste le tort de s'appeler comme ça. Hein. C'est pas en trempant la main dans un bocal rempli de Marianne Kaeffer pour voir que si on sort les doigts, il respecte les os, hein, qu'on va pas être bouffé par ça, qu'on va avancer sur cette question-là. Mais on voit bien que c'est inscrit dans la langue, comme ça. Et qu'il y a évidemment. Le plus malin des plus malins des analystes ne peut pas imaginer un truc, un nouage pareil, s'il veut comprendre. Ce n'est pas possible de le faire exprès. C'est possible de soutenir un dispositif, un processus qui, si ça tourne bien, va permettre à quelqu'un de lui-même faire ce repérage, ou de faire en sorte que ce repérage-là puisse être pointé, entendu de façon fructueuse.
C'est justement le geste étonnant qu'a produit Lacan lorsqu'il a traduit inconscient par une bewusst, hein. C'est-à-dire l'une bewusst qui veut dire non conscient en allemand, il l'a fait passer par une bévue. Voilà. C'est-à-dire que là, il a fait une espèce de glissement homophonique de deux langues. Et donc ça, évidemment, ça a des conséquences. C'est-à-dire l'interprétation, on ne peut plus considérer que c'est faire passer du conscient sur l'inconscient. C'est plutôt de l'ordre du glissement, voilà. Et il y a des gens qui disent, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ça? L'une bévue, c'est pas un concept universel. Voilà, ça ne s'entend que dans la langue française. Ben justement, dire les analystes passent aussi dans les langues voilà, en anglais, je cite ça par exemple, vous avez une homophonie possible entre tout si et la mère si. En français, ça marche pas. Voilà. Vous avez comme ça Lacan dit du reste qu'une langue, c'est la. Je sais pas si c'est la somme, c'est peut-être. Je sais pas si tu sais. C'est la toutes les la somme des équivoques qu'elle porte en elle, qu'elle a sédimentée. Voilà. C'est comme ça qui définit effectivement la langue. Voilà. Donc pour dire que ce jeu entre les différentes langues a été aussi le fait de son écriture théorique. Et quand il reprend par exemple la formule de Joyce, Hagenbeet of Inuit, dont je cite, c'est-à-dire la morsure de l'esprit, de ce qui est à l'intérieur, ça c'est il pose le, il reprend ça et il dit d'une certaine façon, l'inconscient c'est ce qui vient mordre sur. Voilà. Mais le mordre, la morsure, ce qui revient comme remords aussi dans l'histoire de Joyce, c'est à prendre vraiment comme pulsionnel, quoi. C'est sa mort, quoi. C'est peut-être même au-delà du trait d'esprit, ça, quand il dit ça. La morsure d'être mordu par. Voilà. Je suis mordu quand vous avez un empiétement de langue ou quelque chose comme ça mord, quoi. Voilà. Et bon, dernière chose, de ce que je reprends de Freud qui cassait un peu l'image hagiographique de Freud, c'est qu'à un moment, dans sa
La
correspondance à.
merdologie.
Voilà. Dans sa
Je
correspondance
n'osais
à.
pas en parler, mais c'est bien.
Ah, ben oui, dans sa correspondance à Fliess, il parle de drécologie. Le dreck, c'est drécologie, ça veut dire dans merdologie, ce qui merdoit. Et ça, dans les traductions antérieures, ça avait été totalement censuré. Vous vous rendez compte, Freud, qui écrit sur la merdologie? Et donc, il parle de matière, il parle de. C'était pas possible de l'entendre. On est aussi pris là-dedans, dans la géographie extraordinaire. Et il dit vraiment dans l'esquisse qu'à certains moments, il rompt avec les neurones, etc., qu'il appelait psi, oméga, et à la place, il met du delta rho, c'est-à-dire en grec, il met effectivement la matière de la langue. Et il n'interprète plus, par exemple, l'injection faite à Irma, qui était un rêve, il l'interprète plus comme dans des circuits neuronaux. Mais il l'interprète dans la matière et le jeu de la langue. Voilà. Parce qu'il y aurait actuellement une tendance qui voudrait, avec la poussée neurologique des neurosciences et tout ça, récupérer l'esquisse de Freud et nous faire un neuro, etc. Quoi, voilà. Mais on peut quand même essayer de dire que c'est un peu difficile de trouver le centre de la métaphore et de la métonymie, le centre de l'humour, du trait d'esprit, le centre de l'homophonie. Bon, voilà, on a besoin d'un substrat, bien entendu. Mais la création, bien sûr qu'on a besoin, le substrat est important. Mais pour pouvoir localiser ça, c'est compliqué. Bon, voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités. Voilà.
Merci à vous. Merci.